en psycho. 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho. Bonsoir à tous, c'est Axel Jacquemont dans Parlons Psycho. Ce soir, nous allons parler de la confiance en soi. Comment peut-on l'améliorer? Quels sont les réflexes et l'attitude à adopter pour gagner en assurance et pour savoir gérer le stress et les moments de découragement? Si elle est parfois innée, la confiance en soi se travaille toute sa vie, depuis la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte, dès le jardin d'enfants, à l'école et pendant les études, dans la vie professionnelle ou la vie sociale, la confiance en soi est indispensable pour traverser les étapes et les écueils de la vie. La confiance en soi, c'est d'abord s'affirmer, devenir autonome, mais c'est aussi l'aptitude à gérer le stress et les difficultés, à maîtriser ses craintes et à croire en ses capacités pour tenir le cap. Coaching, sophrologie, plantes et de nombreuses méthodes sont en plein essor aujourd'hui face à une demande constante. J'ai choisi ce soir de vous faire découvrir la méthode Vitose ainsi que la sophrologie et les plantes qui favorisent la concentration et la relaxation. J'ai avec moi ce soir deux femmes qui ont accepté de venir parler de leur spécialité. Tout d'abord Hélène Petit-Villiers. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Vous êtes praticienne Vitose, formée par l'Institut de recherche et de développement du contrôle cérébral à Lyon et partout en France. Et j'ai également Brigitte Martin. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Qui est conseillère agréée en fleur de bac, énergéticienne et sophrologue à Villefranche. Tout un programme. Alors, la méthode Vitose, Hélène, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Elle vient d'un médecin suisse, le docteur Roger Vitose, qui avait mis au point au début du XXe siècle cette thérapie qui focalise tous les sens et qui permet de vivre pleinement l'instant présent. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit un peu plus précisément ?
De quoi il s'agit ? Il s'agit tout simplement de manière à faire... face à ces phases de découragement ou des moments de mal-être, en fait, nous sommes mal quand nous ne sommes pas là. C'est-à-dire, nous sommes dans le regret du passé, hein, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça et je ne l'ai pas fait, ou dans l'angoisse de l'avenir, mon Dieu, et j'ai une émission à la radio, comment ça va se passer, voilà. C'est-à-dire que nous jonglons entre les regrets du passé et l'angoisse de l'avenir et nous squeezons cet instant qui est le seul où je peux vraiment agir, qui est l'instant présent. Donc, on raconte que le docteur Vitose, lors de ses études, avait fait l'expérience justement d'une difficulté importante et il a vraiment pris conscience de cela, d'où l'importance pour lui de développer tout ce qui pourrait nous aider à vivre pleinement l'instant présent.
Quel genre de public vous recevez ?
Toutes sortes de publics, depuis les enfants jusqu'au troisième âge. En passant par les adolescents, les gens matures, les gens qui ont des difficultés passagères liées à un licenciement, liées à un deuil, ou des gens avec des difficultés chroniques qu'ils traînent depuis longtemps.
Alors, si on prend les choses de façon chronologique, un enfant peut déjà au plus jeune âge avoir une certaine confiance en lui, notamment en collectivité, lorsqu'il s'agit de prêter ses jouets, d'attendre son tour pour partager un jeu au square, hein, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on veut, nous, parents, apprendre à nos enfants, mais on peut aussi vouloir que son enfant, malgré toute cette politesse, cette délicatesse, ait confiance en lui. Est-ce que c'est possible ?
Mais disons que la vie en société est beaucoup plus facile lorsqu'on a confiance en soi. Hein, si un enfant est bien en lui-même, prêter un jouet ne lui posera pas de problème. Un enfant qui se sent en insécurité, qui n'est pas bien, qui ne sait pas trop où est sa maman, qui l'a vu partir parce qu'elle téléphone, il est en insécurité. Quand il est en insécurité, il va ramener ses jouets et ses choses à lui. Donc la première des choses, j'allais dire, pour vivre vraiment bien en société, c'est justement cette fameuse confiance en soi.
Et dans le cadre de l'adolescence, de la scolarité, un enfant qui souffre de difficultés d'apprentissage freine sa scolarité et lui fait perdre l'estime de lui-même. Qu'est-ce que vous préconisez ?
La même chose, j'allais dire, quel que soit l'âge, on en revient toujours à ces... Alors, la méthode Vitose, on ne l'a pas dit encore, mais elle est basée vraiment à partir d'exercices. d'exercices au niveau, beaucoup dans un premier temps, sensoriel. Et ces exercices, je dirais, c'est ceux-là qui vont nous permettre de nous réapproprier notre propre consistance. Qu'est-ce qui me ramène dans l'instant présent, ici, là, dans ce studio? C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, le retour de ma voix dans les oreilles, c'est ce que je peux sentir, là, votre bureau, c'est sentir aussi mes fessiers sur la chaise, mes pieds dans mes chaussures, mon dos calé ici. Et c'est grâce à ces organes des sens que, si j'en prends conscience, eh bien, je suis là, je suis présente. Et si je suis là, présente, à vous, à moi, je ne suis plus dans l'angoisse de « mon Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir que je dise ?»
Donc, en cas de stress, on se focalise donc sur tous nos sens. On essaie de
les uns après les autres, si possible, parce que tous à la fois, c'est un peu compliqué.
Et ça, donc déjà, ça permet, ça favorise la concentration et l'attention. Et du coup, en termes de confiance en soi, ça veut dire qu'en classe, au bureau, partout.
Si je me sens exister, la confiance, elle est déjà là. Nous avons une collègue qui est enseignante en travaux, comment on appelle ça, artistiques. Une classe qui était très, très... Voilà, c'est souvent dans ces classes-là que les enfants se déchaînent. Elle a fait la formation Vitose et le simple fait, en début de cours, de proposer aux enfants de sentir leurs pieds dans leurs chaussures. Faites-le en même temps que moi. Sentir les pieds dans les chaussures, les bouger, sentir l'enveloppe de la chaussure qui est là. Faire une pression avec un pied. Sentir tous les muscles de la jambe qui font la pression. Relâcher, sentir que les muscles relâchent. Faire la même chose de l'autre côté. Sentir que l'on est assis sur sa chaise ou sur son fauteuil. Se sentir respirer. Se sentir, j'allais dire, dans sa globalité de la tête aux pieds, eh bien déjà, là, je suis là. Donc, je ne suis plus dans l'inquiétude de qu'est-ce que va dire la maîtresse ou je ne suis plus dans ce qui s'est passé à la maison ou dans le trajet avant de venir à l'école.
C'est une véritable gestion de nos émotions.
Absolument. Gestion des émotions, enfin, c'est un terme que, quelquefois, on n'aime pas trop parce que quand on parle de gestion, on dit gérer, voilà. Les émotions sont à vivre, elles ne sont pas à éliminer.
Donc, accueillir ses émotions, accueillir c'est ce qui ressort émotions. Dans les ouvrages sur cette méthode Vitose.
Accueillir ses émotions, les nommer, les reconnaître, les nommer et les traverser. Et c'est ce qui va permettre que petit à petit, les émotions vont moins nous submerger.
Je me tourne vers vous maintenant, Brigitte. Vous qui êtes sophrologue, donc la sophrologie hein, qui est connue, permet une certaine relaxation. Il y a aussi donc, une sorte d'aromathérapie. Hein. Ce que vous proposez, c'est donc les fleurs de Bac qui, elles aussi, ont des vertus pour soigner le stress et puis aider à la confiance en soi. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis donc spécialisée justement dans la gestion du stress et des états émotionnels. Et je pratique l'activité de conseillère agréée en fleurs de Bac, d'olfactothérapie, qui est un accompagnement par les odeurs et la sophrologie, la relaxation aussi. Donc ce sont trois méthodes qui sont complémentaires, mais qui visent un même but, hein, c'est l'autonomie, prendre sa santé, son bien-être en charge et arriver à gérer un petit peu tous ces états qui peuvent nous enquiquiner au quotidien. Alors, commençons par les fleurs de Bac. Donc, c'est une méthode qui a été élaborée dans les années 30 par le docteur Bac. Donc, les avantages, c'est une méthode 100% naturelle, hein, qui n'utilise que des élixirs floraux et de l'eau. Tout le monde peut en bénéficier. Quel que soit son âge et son état de santé, hein, on peut l'utiliser de 0 à 120 ans, on va dire. Et même les animaux et les plantes trouvent vraiment leur compte ce système Bac. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque composition est personnalisée, en fait, et on travaille à équilibrer ses états émotionnels. Donc, quelle est la différence entre un état émotionnel et une émotion? Donc, une émotion, c'est quelque chose qui est sain à la base, quelque chose qui est naturel et qu'on doit vivre et qu'on doit accepter. Mais par contre, lorsque cette émotion est en excès ou en défaut, là, elle risque de nous perturber.
De nous inhiber.
De nous perturber. On le voit bien souvent chez les enfants, justement, qui manquent de confiance en eux à l'école, qui, voilà, parce que à l'origine, donc le manquer de confiance en soi, c'est ne pas croire en ses capacités, se sous-estimer, avoir une mauvaise image de soi. Et l'origine, justement, de ce manque de confiance, c'est peut-être l'absence d'encouragement. Hein, à l'origine, bien souvent, on voit sur les bulletins scolaires « peu mieux faire »,« médiocre »,« pas assez bien », ou même au sein de la famille. Voilà, donc les railleries, les moqueries, l'humiliation et ces états émotionnels, au fil du temps, peuvent s'ancrer, se cristalliser et puis encore perdurer à l'âge adulte.
Alors ces plantes, enfin ces fleurs de Bach, pardon, il faut rappeler quand même que le docteur Bach était homéopathe.
Il était homéopathe, il était médecin, généraliste, il était aussi chirurgien, botaniste. Et donc, il exerçait son métier de médecin et il s'est rendu compte qu'en donnant le même traitement à chacun de ses patients, les personnes ne réagissaient pas de la même façon selon leur vécu, leur histoire et leurs préoccupations.
Ces fleurs, du coup, auraient la vertu de combler des carences qu'une personne aurait eues. Alors, vous parliez tout à l'heure parfois d'humiliation, de mots durs qu'un sujet peut avoir entendu toute sa vie. Mm-hmm. Et donc, l'idée de se soigner par les plantes arriverait à combler ces carences, ces difficultés?
En fait, l'efficacité de ce système PAC réside dans c'est du sur-mesure, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre la personne en compte dans toute sa globalité et puis cibler, parce que c'est vrai que tout le monde a entendu parler des fleurs de Bach, hein, on en trouve en pharmacie, en parapharmacie, mais très peu de personnes savent bien les utiliser. C'est déjà difficile pour soi d'avoir un recul sur soi et de pouvoir dire, bah, tiens, manque de confiance, on va prendre l'arche. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. D'où la nécessité de consulter un conseiller agréé en fleurs de Bach. C'est justement pour pouvoir parler et expliquer ses ressentis, ses préoccupations. Et le conseiller, à ce moment-là, ces entretiens durent à peu près une heure et demie. Et à la suite de l'entretien, on reprend le fil ensemble. Et puis, le conseiller, lui, a traduit en état émotionnel ce qui a été dit. Et puis, à l'issue de l'entretien, la personne repart avec un mélange personnalisé. Voilà. Le docteur Bach partait du principe, en fait, qu'on arrivait tous sur Terre avec une couleur spécifique, son tempérament, etc. Et justement, au fil du temps, on met en place des fonctionnements pour se protéger, ou pour se construire, tout simplement. Mais ces fonctionnements, il arrive un moment où ils sont erronés. Donc, ils nous poursuivent, mais en fait, ils nous enquiquinent la vie, puisque justement, on reparle de la confiance en soi, du manque de confiance, de la timidité, etc. Donc, on forme au fil de notre vie des couches émotionnelles, des strates, en fait, les unes sur les autres, qui se cristallisent. Et donc, le but d'une thérapie avec les fleurs de Bach, c'est de réguler une à une ces couches émotionnelles pour pouvoir laisser émerger en fait ce qu'il y a plus loin, donc sa vraie nature.
Alors, j'allais dire au même titre que l'homéopathie, donc là, je pense, vous avez parlé de flacons que vous donnez, oui, qui sont personnalisés. Au même titre que l'homéopathie, donc il y a un dosage, oui, et les effets donc se font sentir au bout de combien de temps? De jours ou de semaines?
Alors, donc, c'est pas un médicament, hein, c'est pas un antalgique.
Ça n'est pas. Il n'y a pas de prescription, hein, pour les flacons des fleurs de Bach que vous proposez. C'est important de le dire.
Oui, en fait, c'est comme c'est personnalisé, donc il peut. Dans un même flacon, donc on peut avoir de 1 jusqu'à 7 fleurs élixirs différents. Et voilà, c'est un mélange qui est très dilué. Et donc, on prend ce flacon qui dure à peu près 3 semaines, 1 mois. Et qui va réguler justement les états émotionnels. Et pour répondre à votre question, l'efficacité se fait sentir au bout de 3-4 jours. Voilà, on commence à voir l'évolution, les choses qui changent. Et voilà. Et après, on fait le point au bout de 3 semaines, un mois.
Alors, pour gérer le stress et, ou l'anxiété, donc vous avez, je pense, des recettes un peu miracles qui ont fait leur preuve. Alors, je me tourne vers vous deux. Hein. Je parlais de recettes parce qu'on était dans les dosages et les fleurs de Bac. Mais de votre côté, Hélène, donc vous avez parlé tout à l'heure de, vraiment du corps et des sens hein, sur lesquels il faut travailler. Oui. Pour un adulte, par exemple, hein, je prends l'exemple d'une personne extrêmement timide qui a à prendre la parole à un moment donné dans sa vie professionnelle. Ça peut être au cours d'une réunion en interne, mais aussi prendre la parole devant une assemblée inconnue. Qu'est-ce que vous auriez à nous proposer comme exercice qui puisse, juste avant la réunion, mais même de façon quotidienne, soulager une personne qui souffre d'une grande timidité ?
Mais déjà, de faire des exercices de parole consciente. Pour soi tout seul, j'allais dire sans public déjà, pour
s'entraîner devant un miroir,
s'entraîner
dans un micro,
pas forcément devant un miroir, mais venir et s'écouter, c'est-à-dire moi je propose quelquefois de la personne choisit un poème qu'elle aime bien, pour d'autres ça va être un texte d'un livre, une prière, que sais-je, la dire à haute voix, ce qu'on appelle nous la lecture à haute voix, mais qui commence d'abord par la parole à haute voix. Se familiariser avec l'écoute de sa propre voix, déjà pour soi. C'est-à-dire écouter à la fois le son de sa voix, sentir dans sa bouche tous ces mots que je suis en train de modeler à travers, bien entendu, l'expiration, puisque je parle dans l'expiration. C'est-à-dire je modèle l'herbe, l'air qui sort de ma bouche dans l'expiration. Et d'abord pour soi, ça peut être prendre ce qu'on appelle nous la lecture à haute voix, c'est-à-dire prendre un livre et la lire et lire un passage à haute voix. Et puis en séance, on va le lire après devant le thérapeute. Et puis on va s'exercer devant des chaises qu'on va mettre au fond de la salle, s'exercer comme s'il y avait un public qui était là. C'est-à-dire, je ne parle plus pour moi, mais en ayant déjà apprivoisé ma propre voix pour moi, je vais pouvoir oser l'offrir au public qui est là. Et en même temps, c'est rester complètement présent à soi-même. Je me souviens d'un chef de l'hôpital Saint-Luc à Lyon qui était un grand professeur et qui était interviewé à la radio. Et il arrivait du Japon, il venait d'écrire un livre et le journaliste lui dit « Mais comment faites-vous, professeur ? Vous êtes responsable de ce grand service, vous arrivez d'un voyage sur les Grands Bolets au Japon, vous avez écrit un livre, comment faites-vous ?» Il y a eu un petit moment de silence et puis il a dit ben, « C'est simple finalement, je ne me quitte jamais. »
Donc faire abstraction totale finalement des autres ou de ce public qui peut être impressionnant.
Dans un premier temps.
Et essayer de se concentrer que sur
absolument.
Soi.
Absolument, dans un premier temps, oui.
Ça paraît facile
à dire. Mais au plus je vais être moi présent à moi, plus, j'allais dire, le public ne va plus paraître comme dangereux. Voilà, je vais pouvoir après dialoguer directement avec le public. Mais dans un premier temps, c'est d'abord avec moi.
Donc au quotidien, on peut vraiment se s'entraîner à parler,
absolument.
À faire abstraction du reste, dans un train, sur le chemin de l'école, hein,
absolument.
Quand il s'agit d'un enfant.
Absolument.
De votre côté, Brigitte, vous avez, en termes de... Alors, parce que vous êtes sophrologue hein, également, en termes d'exercice, qu'est-ce que vous pourriez proposer à des personnes extrêmement timides? Et on peut imaginer qu'à force de les faire comme pour Vitose, la personne peut devenir, je ne vais pas dire plus du tout timide, parce qu'on a une nature, mais... peut gagner en confiance en elle, en assurance.
Voilà, oser dire ce que j'ai à dire.
Voilà. C'est un travail sur le lâcher prise au niveau du mental hein, qui est nécessaire pour gagner en confiance en soi. Hein. La tyrannie du mental, on a tous, on sait ce que c'est. Hein. Le mental qui est notre pire ennemi, hein. Si nous le laissons aux commandes, il peut nous réduire à l'esclavage. Hein. Et même la nuit, on rumine et c'est vrai que c'est... il paraît qu'on émet plus de 60 000 pensées par jour et que les trois quarts des pensées que l'on émet sont négatives. Donc, ça porte à réflexion. C'est pour ça que la nuit, des fois, quelques personnes ont du mal, ont des nuits agitées avec des petits refrains dans la tête. Tu n'as pas terminé ce dossier. Demain, tu n'auras jamais le temps de faire tout ce que tu auras à faire. Patati patata.
C'est de l'hyperactivité, ça, ou c'est...
Non, c'est simplement être trop dans le mental et trop, en fait, pas pouvoir lâcher prise et être, se mettre la pression en permanence parce qu'on ne prend pas le temps de se respecter, de prendre du temps pour soi, d'écouter ses besoins et puis de lâcher, en fait. Donc, des bons exercices, c'est la relaxation, effectivement, la méditation. Donc là, moi, j'anime toutes les semaines des séances de méditation olfactive. Et c'est un très bon exercice parce que méditer, c'est vrai que sur le long terme, c'est pas facile de s'y tenir. Notre culture nous a pas habitués à méditer en permanence, mais c'est vrai que c'est un travail intéressant. La respiration abdominale, hein, qui induit le calme, la tranquillité. C'est vrai que seulement les bébés et les animaux respirent naturellement par le ventre. Et nous, on perd ça après, à cause justement des tourments du stress.
C'est la conscience qui finalement dérange cette...
C'est ça, c'est en fait de ne pas être pleinement conscient et présent, ancré à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on vit tout simplement.
Vitoz appelait cela le vagabondage.
Oui, le vagabondage.
Le mental qui circule tout le temps.
Qui vagabonde.
Il appelle ça le vagabondage cérébral.
Oui,
en Inde, ils appellent ça le troupeau de singes dans la tête.
Oui, c'est ça. Hein?
Le fait de ruminer en permanence.
Et oui, parce que le cerveau, il émet en permanence des pensées. Et des pensées qui ne sont pas celles que l'on a choisies.
Non.
Mais qui viennent squatter notre cerveau et qui nous empêchent de nous concentrer et qui nous empêchent de recevoir la beauté du soleil sur ces feuilles d'arbres, sur ces branches d'arbres, par exemple.
Et donc, la confiance en elle, donc on l'a dit, peut justement souffrir à cause de ces différents facteurs de l'extérieur, ce cerveau qui rumine, qui turbine. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais que l'on aborde par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi. On a parlé de prise de parole en public, mais il y a aussi souvent des personnes qui disent encore aujourd'hui « je ne sais pas dire non ». Par peur peut-être de décevoir les autres, par peur de s'attirer des ennuis. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, que ce soit dans le monde du travail ou même dans sa vie familiale? Souvent, c'est difficile de dire non.
On s'exerce. On s'exerce à dire non, mais pour des petites choses toutes simples de la vie. Hein. Bon, nous, on travaille beaucoup gestuellement. Hein. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tracer sur un tableau les cercles, des cercles, des cercles, des cercles qui correspondent un petit peu à ce mental qui tourne en rond et qui est... Et à un moment, quand on va le sentir, à un moment, on va stopper et on va dire non. Et on va le dire haut et fort, de manière à pouvoir l'entendre. Et entendre que dire non, ça n'est pas agresser l'autre, mais c'est me respecter moi. Donc il y a des exercices très spécifiques comme cela pour oser dire non. Et il y a aussi d'autres exercices qui sont tout simplement à revenir à sa propre sensation de son corps et tout ça, et de me dire qu'est-ce qui est bon et juste pour moi, maintenant.
Et s'accepter comme on est.
Voilà, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas d'aller à tel endroit, mais plutôt d'aller à tel autre endroit. Hein.
Brigitte, qu'est-ce que vous conseillez, vous, à ces personnes
donc,
qui ont peur de dire non?
Dans le système BAC, il avait élaboré ces 38 fleurs qu'il a classées en plusieurs groupes. Hein, et donc, vous avez le groupe des doutes, des incertitudes. Et puis, on retrouve Centauri, donc, qui est la fleur pour rééquilibrer. Cet état de non-affirmation de soi, en fait, par peur du conflit, pour pouvoir rendre service aussi, on ne saura pas dire non, mais on n'est pas à l'écoute de ses propres besoins et on ne se respecte pas. Donc voilà, donc ça c'est une piste. Sinon, savoir dire non, ça, se donner des petits défis en se disant aujourd'hui, si une amie m'appelle et que j'ai mieux à faire parce que c'est plus important pour moi, savoir lui dire non. Et ça, c'est tout un cheminement aussi qu'on peut... c'est de la pratique au quotidien, c'est un entraînement, mais on peut y arriver.
Et dans vos deux disciplines, enfin je parle de disciplines, Vitoz, la méthode Vitoz, et puis la relaxation et les fleurs de Bac, il y a une chose qui vous réunit quand même, je crois, c'est tout ce qui est donc lié au sens. Vous parliez d'atelier olfactif Brigitte Martin, j'aimerais que vous me disiez quelque chose là-dessus, l'une et puis l'autre. Parce qu'on a parlé du toucher, de la respiration, mais l'olfactif est un sens intéressant, il me semble.
Oui, donc l'olfaction est le plus puissant de tous nos sens, puisqu'il est directement relié au cerveau limbique, qui est le siège de la mémoire émotionnelle. Donc on ne peut pas tricher avec une odeur. En sentant une odeur, on peut raviver un souvenir qu'on croyait complètement disparu. Donc c'est très intéressant. Moi, je travaille aussi en EHPAD. J'anime des ateliers olfactifs et on travaille justement sur cette remémorisation. Et contrairement à d'autres sens, il n'y a pas d'espace-temps dans l'olfaction. Donc une odeur qu'on a sentie à l'âge de 8 ans dans le jardin de sa grand-mère, une odeur de rose, on le retrouve avec tous les souvenirs qui reviennent. Donc c'est très intéressant de travailler sur les sens. Donc là, en individuel, je propose des séances d'olfaction pour pouvoir aller débusquer des blocages, même inconscients, chez certaines personnes qui n'ont pas réussi à travailler là-dessus. Et c'est très très intéressant parce que en fait c'est ne remonte que ce qui ne doit remonter à l'instant T en fait. Donc on part et c'est ludique puisque on explore des odeurs et on laisse aller, on laisse faire.
Hélène Petitpillier, est-ce que donc l'odorat peut rassurer?
Alors rassurer peut-être
en dans vitose, le cadre de cette confiance
voilà.
En soi. Hein.
En vitose, en fait, on va parcourir tous les organes des sens. C'est-à-dire qu'on va exercer la vue consciente, l'odorat conscient, le toucher conscient, l'écoute, le goût, la saveur, tout cela. Et en revenant, en étant toujours très près de la physiologie. C'est-à-dire que la vue, par exemple, ne me renseigne pas sur le poids d'un objet. Elle me renseigne sur les couleurs, les formes et la distance de l'objet. C'est tout. Physiologiquement, c'est cela. Le toucher va me renseigner sur, nous avons deux types de cellules, les cellules de Meissner et de Pacini. Les unes nous renseignent sur la pression, c'est-à-dire ce qui est dur, ce qui est mou, ce qui est rugueux, ce qui est piquant par exemple, et la température. Donc on revient à cet état initial de la sensation avant que le cerveau ait interprété en disant ça c'est une table. Donc on essaye de revenir à cette première sensation. Et là, on parcourt tous les organes des sens. Et c'est avec cela que l'on va pouvoir faire ce que Vitose a donné vraiment comme le tout premier remède à tous nos maux, c'est de faire des actes conscients. Mmh. Et les actes conscients, c'est ceux qui vont récolter dans un acte. Et il y a à la fois le sensoriel, mais il y a aussi la proprioception, la kinesthésie, si je suis en marche, si je suis en mouvement. C'est-à-dire que dans l'acte conscient, je vais être présent à tout ce qui se passe, à la fois sur le plan de mon corps en mouvement et à la fois sur tout ce que mes organes d'essence me renseignent sur l'extérieur.
Très intéressant, c'est passionnant tout ça, on en parlerait des heures. Voilà, j'espère en tout cas que nos auditeurs auront pu prendre des notes sur ces différentes façons de développer et de cultiver sa confiance en soi. On en sait un peu plus maintenant grâce à vous sur la méthode Vitose, les fleurs de Bach et la sophrologie. Eh bien, je vous remercie toutes les deux, Hélène Petitpillier et Brigitte
merci,
Martin,
merci
pour votre participation. Et je vous dis quant à moi, à très bientôt au mois d'avril pour un prochain numéro de Parlons Psycho. Très bonne soirée. Bonsoir à tous.
Bonsoir.